VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
8h, temps universel, dans 10 minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Processus de paix israélo-palestinien, le secrétaire d'État américain John Kerry a défendu aujourd'hui la décision d'administration Obama de ne pas opposer de veto à la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU dénonçant la poursuite des implantations juives en Cisjordanie.
The vote in the United Nations was about preserving the two-state solution.
Le vote à l'ONU visait à préserver la solution des deux États. C'est ce que nous avons défendu. Israël comme un État juif démocratique vivant en paix et en sécurité aux côtés de ses voisins. C'est ce que nous tentons de préserver dans notre intérêt et le leur, a précisé John Kerry. Le numéro 1 du département d'État américain a aussi parlé du désaccord exprimé publiquement par les autorités israéliennes avec les États-Unis sur ce dossier.
Regrettably, some seem to believe that the U.S. friendship means the U.S. must accept any policy, regardless.
Malheureusement, certains semblent penser que l'amitié des États-Unis signifie que les États-Unis doivent accepter n'importe quelle politique, indépendamment de nos propres intérêts, de nos positions, de nos propres paroles, nos propres principes, même après avoir exhorté encore et encore à un changement de politique. Les amis doivent se dire mutuellement la dure vérité et l'amitié requiert un respect mutuel, a souligné le chef de la diplomatie américaine. La solution des deux États est le seul moyen d'assurer une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. C'est le seul moyen d'assurer un avenir de liberté et de dignité pour les Palestiniens et un important moyen de faire avancer les intérêts américains dans la région, a ajouté le secrétaire d'État John Kerry. Afrique maintenant, le Maroc a dépêché en Mauritanie une délégation gouvernementale qui a été reçue ce mercredi par le président mauritanien pour, selon un communiqué de Rabat, dissiper tout malentendu après des propos polémiques d'un responsable marocain. Les détails avec John Lindon.
Le 24 décembre, Hamid Chabad, secrétaire général de l'Istiklal, le parti historique de la lutte pour l'indépendance marocaine, avait déclaré que la Mauritanie était une terre marocaine. Des propos vivement dénoncés à Nouakchott par l'ensemble des formations politiques. Dans le but de dissiper tout malentendu qui pourrait avoir un impact négatif sur les excellentes relations entre les deux pays, souligne un communiqué du Palais Royal, le Maroc a donc dépêché en Mauritanie une délégation conduite par son chef de gouvernement, Abdelilah Ben Kirane. Au président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz, qui l'a reçu, M. Ben Kirane a affirmé que les déclarations de M. Chabad n'engagent que lui-même. Elles ne reflètent ni la position du roi Mohamed, ni celle du gouvernement, ni celle du peuple marocain. Mohamed VI s'est entretenu hier au téléphone avec Mohamed Oul Abdelaziz et a réaffirmé son attachement à la relation de bon voisinage et de solidarité entre les deux pays.
Niger, les combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram qui a mené depuis 2015 des attaques très meurtrières dans le sud-est du pays sont totalement en déperdition. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi Bazoum Mohamed, le ministre nigérien de l'Intérieur, en visite à Difa, ville proche du nord-est du Nigeria, berceau de Boko Haram. Bazoum Mohamed avait déjà annoncé mardi qu'une trentaine de combattants de Boko Haram, originaires de Difa, avaient déposé les armes et s'étaient rendus aux autorités nigériennes. Le point avec Lionel Gaïma.
31 jeunes, plus exactement, dont 4 femmes, enrôlées il y a quelques années dans les effectifs de Boko Haram. Une déclaration faite sur les réseaux sociaux par Bazoum Mohamed en visite à Difa, ville proche du nord-est du Nigeria, bastion de Boko Haram. C'est la première fois que les autorités nigériennes font état de désertion de ressortissants nigériens de rang de Boko Haram qui mènent des attaques meurtrières depuis février 2015 contre le Niger. Ces jeunes pourront bénéficier d'une amnistie et, avant de regagner leur famille, ils bénéficieront d'un programme de déradicalisation et des projets de réinsertion socio-économique. En janvier 2015, un responsable municipal de Difa avait signalé des départs nombreux de jeunes qui étaient de plus en plus attirés par les offres de Boko Haram, qui leur proposent jusqu'à 300 000 francs CFA par mois, environ 500 euros par mois.
Burkina Faso, le président Roch Kabore a nommé aujourd'hui le colonel-major Sadou Oumarou, nouveau chef d'état-major de l'armée burkinabé. Le colonel Oumarou est un ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Il est originaire du nord du pays, région attaquée à plusieurs reprises depuis le début de l'année par des groupes djihadistes, souvent venus des pays voisins. 12 militaires burkinabés ont été tués dans une récente attaque à Nassoumbou, dans le nord, à 30 km de la frontière du Mali.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Soudan, les députés ont voté aujourd'hui le rétablissement du poste de Premier ministre. Ce poste avait été supprimé suite à l'arrivée au pouvoir du président Omar al-Béchir lors d'un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. Les détails avec Dili Diko.
Dans le cadre du dialogue national entre le gouvernement soudanais et des groupes de l'opposition, le président soudanais Omar el-Béchir avait suggéré en octobre de nommer un premier ministre. Aujourd'hui, 387 députés présents sur un total de 425 ont voté à l'unanimité un amendement donnant au premier ministre la responsabilité du pouvoir exécutif dans le pays. Le président garde en revanche le pouvoir de former le gouvernement et de limoger les ministres. Le dialogue national a été organisé par Khartoum pour résoudre les problèmes économiques, les insurrections et donner jour à une nouvelle constitution. Il a cependant été boycotté par la plupart des groupes armés et des partis d'opposition en signe de ras-le-bol face à M. Béchir au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle. Le président soudanais est d'ailleurs recherché depuis 2009 par la Cour pénale internationale pour répondre de crimes de guerre et de génocide au Darfour.
En RDC, les populations attendent toujours la signature d'un projet d'accord devant sanctionner les travaux du dialogue de la dernière chance, ouvert le 8 décembre sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale catholique du Congo, pour une solution de sortie de crise. En principe, la CENCO prévoit pour ce vendredi 30 décembre la signature de l'accord en question. Et puis en RCA, le président déchu François Bozizé, en exil au Kenya, préconise l'organisation d'un forum de réconciliation nationale pour trouver des solutions à la crise dans son pays. Proposition rejetée par le gouvernement du président Faustin Archange Touadéra, qui souligne que François Bozizé est non seulement sous le coup d'une sanction de l'ONU, mais aussi fait l'objet d'une poursuite judiciaire dans son propre pays. Mais pour Joseph Bendouga, le leader du MDREC, un parti d'opposition, la présence de François Bozizé à ses assises est souhaitable. On écoute Joseph Bendouga.
Tous les Centrafricains sont appelés à débattre de leur pays, sauf si Bozizé doit répondre devant la justice. Mais à ce que je sache, Touadéra a co-géré la République Centrafricaine jusque un mois et quelques jours. C'était l'accord de Libreville qu'il a relevé de ses fonctions. Si Bozizé doit aller devant la justice, mais Touadéra, premier ministre, chef du gouvernement, pendant cette période-là, doit aussi répondre de cela. Donc je ne pense pas que c'est seulement Bozizé qui doit répondre devant la justice centrafricaine. Mais Touadéra, 5 ans durant, était premier ministre de Bozizé. En ces temps-là, il y a eu l'avènement de la LRA, celle de la SELECA. Il est co-acteur de la crise centrafricaine, tant comme les chefs rebelles que Bozizé.
Joseph Bendouga, président du MDREC, le Mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de Centrafrique. Actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie, la Turquie et la Russie ont convenu de mettre en œuvre ce soir à partir de minuit, heure locale, un plan de cessez-le-feu pour la Syrie. Gabi Dorsil nous en dit plus.
L'agence officielle Anadolu indique que l'objectif visé est la cessation complète des hostilités dans la deuxième ville de Syrie, Alep, mais à l'exclusion des groupes terroristes. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a fait savoir, selon Reuters, qu'Ankara demeure ferme dans sa position sur le départ de Bachar al-Assad. Deux textes sont déjà prêts pour une solution en Syrie. L'un vise une résolution politique du conflit et l'autre concerne un cessez-le-feu. Ils peuvent être mis en application à n'importe quel moment, a ajouté le chef de la diplomatie turque. La semaine dernière, la Russie, l'Iran et la Turquie ont adopté une déclaration conjointe définissant les grandes lignes d'un éventuel accord sur la Syrie. Le président Vladimir Poutine a annoncé la tenue prochaine de pourparlers à Astana, la capitale du Kazakhstan, entre les trois pays.
Et pour terminer, Tunisie, une réunion ministérielle se tiendra demain jeudi autour du chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed afin de définir un plan d'action face à la menace que représente le possible retour dans leur pays des milliers de Tunisiens ayant rejoint les rangs d'organisations djihadistes ces dernières années. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.